question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de liberté de conscience. C'est un sujet crucial, important pour la pensée théologique islamique. C'est au cœur des débats contemporains chez les philosophes, théologiens, penseurs musulmans. Et j'ai grand plaisir à recevoir Dominique Avon. Dominique Avon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes un fin connaisseur de cette notion et de ce droit qu'est la liberté de conscience. Vous lui avez consacré un livre somme, pas loin de 1200 pages, qui fait autorité. Et c'est vraiment une joie pour nous tous. Les auditeurs vous en sauront gré d'avoir accepté de donner de votre temps et de venir nous parler de ce droit et de cette notion et surtout de son histoire. Merci à vous.
Merci pour l'honneur que vous me faites.
Dominique, avant la question relative aux droits humains et surtout aux libertés fondamentales et à la liberté de conscience concerne toutes les traditions religieuses, tous les systèmes de pensée. Vous dites vous-même que c'est un acquis récent, peut-être un acquis de la modernité politique et intellectuelle. Nous verrons tout au long de l'émission comment tout cela se décline dans les contextes islamiques. Et en quoi est-ce récent? J'ai cru comprendre que, par exemple, mais à titre d'exemple, au sein de l'Église catholique, on y était amené à considérer cette affaire de liberté de conscience d'une manière sérieuse qu'après Vatican II. Peut-être un peu plus tôt, mais bon.
Du côté des philosophes, des théologiens en amont, dans le cadre notamment de la période révolutionnaire en France et dans l'espace européen d'une manière plus générale, avec une opposition assez ferme tout au long du XIXe siècle de la part du magistère de l'Église catholique, qui combattait à la fois l'indifférentisme, c'est-à-dire cette liberté de conscience pouvait provoquer l'indifférentisme religieux, qui était considéré comme un mal pour le salut des hommes, parce que associé à cette notion de liberté de conscience, il y a la question du salut des hommes, et ça, en cela, ça touche toutes les traditions religieuses, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à ce que fait seulement l'être humain dans cet espace infralunaire, mais au-delà. Et l'autre problématique posée par le magistère catholique, c'était l'ordre public, c'est-à-dire cette liberté subjective pouvait entraîner du désordre, et la période révolutionnaire est considérée non seulement du point de vue du magistère catholique comme un désordre, mais comme un moment également de persécution anti-religieuse. Donc c'est fort de ce double héritage qu'il y a une mobilisation pendant un siècle à peu près du magistère catholique contre ce droit qu'est la liberté de conscience. Et au sein du catholicisme, il y a des penseurs qui essayent de faire la part entre un principe qui peut être positivé et la liberté religieuse plus générale et les libertés de l'Église qui étaient en fait le droit défendu par le magistère.
Il y a eu certes des théologiens ou des penseurs, si on reste toujours, encore une fois à titre d'exemple, en prenant l'exemple de l'Église catholique, qui ont pensé, si je puis dire, contre l'institution.
Il y a des penseurs qui ont pensé contre l'institution, oui. Certains, ça leur a coûté cher. Par exemple, dans la première moitié du XIXe siècle, quelqu'un comme Félicité de Lamennais, qui était d'abord un catholique intégral, intransigeant, défendant la position du magistère que je viens de décrire, et puis petit à petit, et notamment à l'occasion d'événements internationaux, par exemple l'occupation, enfin plus exactement la répression d'une révolte polonaise par les troupes russes, demandant au pape de l'Église catholique de défendre les Polonais en 1830, et au nom du respect de l'ordre établi, le pape Grégoire XVI dit ben, « il faut respecter cet ordre établi, c'est pas la liberté qui prime ». Et donc l'amener glisse peu à peu vers une défense du libéralisme, alors qu'il essayait de faire tenir ensemble Dieu et la liberté, qui était le slogan de son journal L'Avenir.
Dans d'autres contextes, et tout particulièrement dans les traditions religieuses, comme l'islam dans son obédience sunnite, où il n'y a pas une autorité centrale, parlera tout à l'heure des gestionnaires du sacré, des entrepreneurs identitaires, des gardiens de l'orthodoxie, ceux qui savent lier et délier selon la formule consacrée. Mais cette question de liberté de pensée, de liberté de conscience, est mise à mal par le groupe lui-même. C'est ce qu'on appelle la pression communautaire.
Oui, mais ce groupe est lui-même formé, c'est-à-dire reçoit une éducation, ce qui nous ramène toujours en fait aux prescripteurs, aux détenteurs du savoir, à ceux qui éduquent, et donc d'une manière ou d'une autre aux hommes de religion, c'est-à-dire ceux qui disent « voilà ce qu'est l'islam qu'il faut connaître ».
Et donc, cela devrait, pour emprunter une métaphore éculée maintenant, grossir les mailles ou les distendre, en tout cas en ce qui concerne les questions de liberté fondamentale.
Il y a du jeu entre eux, et on peut distinguer des moments où il y a parmi cette corporation des hommes de religion une volonté de s'intéresser à une pensée et des droits qui interrogent. Je vais prendre un exemple. Rifat al-Tahtawi, quand il vient en France entre 1826 et 1831, il voit bien dans cet espace français autour de 1830 l'importance de la notion de liberté, mais curieusement il la traduit par la notion de adl, donc de
d'équité, de justice,
mais dans un sens très large. C'est pas une justice au sens strict, hein, c'est une, et donc on voit bien qu'il dit mais comment moi je peux traduire cette notion si et ce droit si important pour ceux que je vois, ceux que je côtoie dans l'espace français. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que cette notion de huria en arabe résonne au sens de liberté, un peu comme elle résonne freedom en anglais, Freiheit en allemand ou liberté en français.
Oui, Raf al-Tahtawi est venu grosso modo comme une sorte d'aumônier accompagnant des étudiants d'Al-Azhar pour découvrir Paris et la France entre 1826 et 1831.
C'est ça. Donc, et pour essayer de faire une sorte de condenser du savoir dans tous les domaines, hein, de l'hygiène à la santé, à l'architecture, à tout ce qui relève des sciences naturelles et aux sciences politiques, administratives et militaires. Et donc il s'intéresse à tous les domaines du savoir, mais aussi à la philosophie et au droit. Et il essaye de transmettre ça pour partie en langue arabe, donc sa fameuse relation, qui est beaucoup plus qu'une relation de voyage, lors de Paris, traduit ce qu'il saisit et la manière dont il veut le restituer aussi. Parce qu'il y a un jeu entre ce qu'il saisit et ce à qui il s'adresse en langue arabe ensuite.
Oui. La notion de liberté telle que vous l'avez évoquée, al-hurriya, il y a eu aussi un débat à la fin du 19e siècle. Est-elle un droit ontologique inhérent à la nature d'être humain, ou c'est aussi un droit de Dieu qui finalement est conféré à l'homme, et l'homme agit dans le cadre de cette liberté voulue par Dieu?
C'est une question là très très large. Il faudrait voir dans quelle mesure les penseurs de langue arabe musulmane saisissent la notion de droit naturel. Parce que cette notion de loi naturelle ou de droit naturel, qui sont d'ailleurs pas identiques, ne sont pas pensées de la même manière, pour ce que j'en sais, justement dans l'espace de langue arabe pour des auteurs sunnites. En revanche, à partir du moment où il y a de la traduction de langues européennes vers la langue arabe en particulier, mais également le persan, il y a une réflexion commune et des passages sur mais est-ce que c'est véritablement un droit naturel ou est-ce que c'est un octroi de la part de Dieu. Et si c'est Dieu qui parle, c'est toujours via une médiation, le texte coranique, via l'exemple prophétique. Et donc on peut réinterpréter à ce moment-là, de la part de certains savants, cette parole qui émane de Dieu pour ce croyant musulman dans ce domaine-là. Et il y a un échange très intéressant au début du 20e siècle, pardon, un débat public entre Farah Antoun, qui n'est pas musulman, et le cheikh Mohamed Abdou, qui est le grand moufti d'Égypte à ce moment-là, qui part en fait d'une divergence d'interprétation de Ibn Rushd. Et ils développent leur divergence autour de « mais que doit faire l'État ?» Et nous introduisons un nouvel acteur dans notre histoire, qui est le rôle de l'État qui garantit cette liberté pour chaque individu. Falah Hamtoun défend cette liberté pour chaque individu, y compris de ne pas croire, puisqu'il parle de citoyens bouddhistes et athées. Tout ça se passe en langue arabe. Et Abdou lui dit, non, on ne peut pas séparer l'État et la religion de la même manière qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. Et on voit là un désaccord qui est assez intéressant à saisir. Et c'est d'autant plus que, par la suite, des savants sunnites se réclament d'Abdou, mais pour aller plus loin que lui. Et justement défendre cette possibilité du droit individuel face aux hommes de religion ou face à l'État.
Alors, en vous écoutant, je me suis rappelé d'une citation de Nicolas Berdiaev, je crois qu'elle était reprise par Jean Kelevitch dans « De l'esclavage et de la liberté de l'homme », lorsqu'il dit que l'élément divin de la personne humaine, justement, ce qui est inaliénable, demeure sa liberté et son indépendance à l'égard du monde objectif. Donc là, on allie à la fois les considérations révélées, on parle de Dieu, de l'élément divin, mais aussi la dignité de l'homme dans son émancipation, son indépendance et sa liberté.
Oui, et cette manière de concevoir les choses existe notamment dans la tradition musulmane, au premier temps de l'islam, dans ce débat entre Qadarite et Jabalite, c'est-à-dire quel est ce libre arbitre de l'homme face à la volonté divine. La différence, c'est que au 8e siècle, par exemple, elle n'a pas débouché sur une reconnaissance d'un droit de type universel. Donc c'est un débat théologico-philosophique, mais qui reste centré sur un type de croyant et sans transfert dans le domaine juridique. Puisque dans le domaine juridique, il y a le respect de la loi et qui est attribué à Dieu. Alors qu'au 19e ou 20e siècle, le changement, et c'est en cela que c'est une liberté moderne, c'est qu'il y a un passage dans l'espace du droit et du droit accordé à chaque être humain.
Alors ceci m'amène à vous poser cette question à propos du débat contemporain dans les contextes islamiques actuellement. Il y a ceux qui sont parmi les penseurs, les théologiens, les philosophes, qui sont les tenants de considérer ces considérations de liberté fondamentale et des droits humains, des droits de l'homme majusculaires, pour parler comme Yad Ben Ashour. C'est quelque chose qu'il faudrait penser d'une manière intrinsèque et en dehors de toute considération de révélation. Ceux auxquels répondent les tenants de l'idée que tout cela n'est pas propre à une pensée occidentale, puisque c'est contenu, sinon d'une manière explicite, au moins potentiellement, mais en tout cas ça existe en germe dans la révélation coranique. Et ce sont peut-être, mais je le dis sous votre contrôle, Dominique Avant, les tenants de la seconde vision des choses qui longtemps l'avaient emporté.
Oui, dans les faits, effectivement, ils l'ont emporté, mais il se trouve qu'une partie de ceux qui disent ce droit existe dans les fondements textuels de la révélation musulmane, en fait, ne le traduisent pas véritablement en termes de liberté individuelle, ils le traduisent plutôt en termes de liberté de culte pour des communautés autorisées. Et ça, c'est une différence essentielle. Alors qu'il y a un petit groupe d'intellectuels ou de savants religieux qui disent qu'il faut faire très attention justement de distinguer liberté religieuse identifiée à une liberté de culte, c'est-à-dire pour des communautés autorisées, et liberté de conscience pour chaque être humain en tant qu'individu.
La fameuse différence entre la liberté de conscience et la liberté de religion.
C'est ça, elle est essentielle. Alors qu'Yad Ben Ashour, dont vous parliez, lui insiste sur justement cette particularité de la liberté individuelle. Ce qui n'empêche pas de la retrouver ensuite par une réinterprétation des textes fondateurs et dans un esprit croyant.
Oui, Yad Ben Ashour, pour le dire à nos amis auditeurs, est ce constitutionnaliste tunisien qui a inscrit ou tenu à inscrire la liberté de conscience dans la constitution tunisienne. Nous avons eu le plaisir de l'inviter à cette antenne et qui est membre de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec l'historien Dominique Avant, nous parlons d'une notion fondamentale, importante et d'un concept même, celui de la liberté de conscience. qui est ou qui serait le scotum, le point aveugle de la pensée théologique islamique. Je ne sais pas dans quelle mesure Dominique Avon nous le dira, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Cher Dominique Avon, pour cette deuxième partie, il y a eu, tout au long du siècle écoulé, des débats parfois emportés. Vous nous avez cité un exemple, certes, entre un grand moufti et un intellectuel chrétien, donc pas de la même confession, mais au sein même de l'islam et au sein d'un débat intra-islamique, parfois les débats étaient emportés.
Oui, il y a notamment dans les années 50 et 60 des débats tout à fait intéressants. Par exemple, le cheikh Khaled Khalidi, qui publie au tout début des années 50 Minhuna Nebda, donc voilà les fondements.
À partir d'ici, nous commençons.
Voilà les fondements, le point de départ, notre point de départ, et qui essaye d'ouvrir un certain nombre de portes, et il se trouve tout de suite en butte à certains de ses confrères, et en particulier au cheikh Mohamed El-Razali, qui rétorque Minhuna Na'alemu, c'est-à-dire voilà les fondements de notre savoir, et c'est un savoir religieux avec des blocages. Deuxième exemple, à la fin des années 60, Sadiq Jalal al-Azm, qui est un philosophe formé à la fois avec une connaissance en savoir islamique, mais également en pensée européenne du XVIIIe siècle, un spécialiste de Kant, qui après la défaite arabe de 67, dit ben, il faut provoquer une réflexion sur un certain nombre de nos verrous, et notamment concernant la manière dont nous parlons en tant qu'être religieux. Et alors, à ce moment-là, il enseigne au Liban, et ce débat-là le conduit à être arrêté, et il est défendu par des hommes de religion, en disant, mais on n'est pas d'accord avec lui, mais il faut qu'on le laisse parler pour discuter d'égal à égal. Parmi eux, Sobhé Saleh, ou le cheikh El Alayli, et qui n'ont pas du tout le même point de vue ni l'un ni l'autre, mais qui sont prêts à ce moment-là à débattre. Et c'est très intéressant parce que ces années 50 et 60 sont celles d'une possibilité d'aborder, en contexte majoritairement musulman et dans le monde de langue arabe, vraiment des questions extrêmement sensibles, y compris par exemple sur la pratique du jeûne du Ramadan ou des choses comme ça. Ce qui se passe à partir des années 70, et c'est très important de l'historiciser pour ne pas l'essentialiser, justement, c'est la prise en main par des hommes de religion qui disent « Non, là vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas. » Et petit à petit, le débat se rétrécit, la parole publique se rétrécit. Donc on peut en discuter en privé, mais ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile d'en parler publiquement. Et le troisième et dernier exemple que je prends est tout à fait paradigmatique, puisque c'est celui du savant soudanais Mahmoud Mohamed Taha, qui publie à la fin des années 60 Al-Risal al-Thani, c'est-à-dire la deuxième épître. La thèse est la suivante, vous la connaissez bien. Quel est le niveau d'universalité de la parole coranique? Dans la mesure où même les savants classiques disent il y a des versets qui sont abrogés et des versets qui sont abrogeants. Lui inverse la grille de lecture en disant ce n'est pas forcément ce qui vient après qui abroge ce qui vient avant. C'est ce qui est universel qui abroge ce qui est conjoncturel. Et la prédication mécoise était de type universel, les décisions médinoises étaient de type conjoncturel. Donc il inverse ça. Alors il faudrait s'accorder sur quels sont les versets mécois, quels sont les versets médinois, ça c'est une autre question, mais sa démarche intellectuelle est ça. À la fin des années 60, il peut le publier, il peut le diffuser. Et durant toutes les années 70, il subit des coups, alors de savants soudanais, de savants d'El Azhar, de savants de la Ligue islamique mondiale, qui aboutissent à son procès dans un contexte politique, parce qu'une dimension politique vient se rajouter à la dimension religieuse particulière, et une condamnation à mort et une exécution publique.
En 1985.
Et là, on a le changement de contexte. On assiste bien à ce changement de contexte. Alors que la parole était plus libre dans les années 60, elle devient moins libre dans les années 80 et 90. Et c'est très remarquable.
Et vous pensez, l'exemple de Mohamed Mahmoud Taha est patent, que c'est à cause de la fameuse année fatidique pour certains de 1979 que les choses ont connu un coup de verrou supplémentaire?
Alors, c'est un accélérateur, mais la décennie 70, en fait, prépare ça, notamment du fait de la prise en main d'institutions par un courant antilibéral, que je qualifie d'intégral. C'est le cas El Azhar, avec le cher Abdelali Mahmoud, pourtant formé à la Sorbonne, hein, mais qui a rejeté publiquement ce qu'il avait acquis en disant « ça c'est de la pensée exogène, nous n'en voulons pas, nous ne voulons pas de ce droit exogène, donc on va tout rejeter ». C'est le cas en Arabie Saoudite, où plusieurs universités ont été fondées entre la fin des années 50 et le début des années 70, et où se retrouve, c'est un foyer de formation de pensée antilibérale, là encore, avec frères musulmans, mais pas seulement, wahhabites et maoudoudistes également, qui vont se retrouver et qui forment vraiment des centaines et des centaines d'étudiants. L'université de Médine, qui a été fondée en 61, depuis 6 décennies, a formé 45 000 personnes. C'est une force de frappe considérable quand on voit le type d'enseignement qui y a été transmis.
Maoudoudiste, c'est relatif à Boulala al-Maoudoudi, maître à penser de ce que d'aucuns appellent l'islamisme contemporain aussi.
Voilà la théorisation d'un contre-modèle. Nous ne voulons ni de modèle socialiste, ni de modèle libéral capitaliste et impérialiste. Et donc, nous avons un modèle islamique propre et intégral. C'est celui que nous devons appliquer.
Et qui est aussi intransigeant avec cette idée qu'on est coincé de deux choses l'une. Soit on rejette tout ce qui est exogène et qui vient de l'Occident parce que c'est un Occident oppresseur, colonisateur. Soit on garde ce qui est propre à l'islam, mais là, il n'y a pas eu de renouvellement de la pensée. Et donc, dans tous les cas, on est dans une impasse.
Pour ceux qui défendent la deuxième position, c'est une voie de sortie pure et anhistorique. Mais pour ceux qui disent il y a d'autres choses à faire, effectivement, c'est une grande difficulté dans le contexte actuel. Et Khomeini, en fait, participe de ce mouvement, mais pour la tradition chiite. Et donc, quand je dis tout à l'heure que c'était un vecteur, un accélérateur, c'est que, comme il a réussi sa révolution, au sens où il a pris le pouvoir, il l'a reçu d'ailleurs ce pouvoir, puisqu'il a été soutenu par un mouvement populaire, eh bien il montre à ses homologues sunnites, regardez, c'est possible. Voilà pourquoi il y a un phénomène d'accélération de ce courant-là.
Et auquel cas, du côté du sunnisme, c'est plutôt la tendance wahhabite qui va encore, avec les pétrodollars, comme on dit, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes sur ce point, essaie de contrecarrer la déferlante ou d'endiguer la déferlante khoméniste de crainte qu'elle puisse envahir les contrées sous domination sunnite.
Vous avez parfaitement résumé l'enjeu. Il y a une rivalité, notamment là où il y a une population avec sunnites et chiites. Le cas irakien est très, très remarquable de ce point de vue, hein, puisque Saddam Hussein est, pour des raisons proprement concrètes et prosaïques, mais aussi pour des questions politico-religieuses, prend l'initiative d'une offensive contre l'Iran et il obtient postérieurement l'appui des pétromonarchies.
Il y a aussi cette fois, en dehors des questions politiques, politiciennes, géostratégiques, des considérations conceptuelles et philosophiques. Alors d'aucuns disent que le mal est dans l'individualisme libéral dont il faut se méfier. Il n'y a pas mieux que la cohésion du groupe, encore une fois. Et ce débat a été repris. Il suffit simplement de se débarrasser des sciences islamiques traditionnelles, à commencer par celles, ce qu'on appelle le fiqh, donc forme de jurisprudence ou de droit dit savant même pour certains, parce que la charia reste presque simplement comme une source de législation et non pas la loi en tant que telle, dans certaines compréhensions, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille aller jusqu'au triomphe de l'individu.
Oui, et cette remarque que vous formulez n'est absolument pas spécifique à la tradition musulmane. On retrouve, et dans la tradition juive, tradition hindoue, tradition bouddhiste, tradition chrétienne, cette méfiance à l'égard de ce centrage sur l'individu et ce qu'il peut faire de cette liberté-là, avec un champ qui est extrêmement sensible et qui est celui des mœurs et des comportements sexuels. Donc là, il y a une mobilisation d'autorités religieuses ou d'une part des populations pour dire l'octroi de ce droit-là provoque ce type de comportement que nous ne voulons pas. Regardez l'exemple que cela donne, nous n'en voulons pas. Ça, c'est le premier domaine. Et le deuxième domaine, c'est la possibilité, vous avez invité à cette table Hamadi Redissi, la possibilité de tenir une parole qui peut choquer, ou d'esquisser un dessin qui peut choquer. Donc cette liberté-là devient dangereuse, devient offensante, et donc est-ce qu'on peut véritablement l'accorder? Voilà une autre manière de dire ça rebute. Donc l'individualisme, assumer sa liberté est quelque chose qui est potentiellement dangereux pour beaucoup.
Alors il y a aussi une autre difficulté, voire une restriction des libertés académiques. On a un jeune étudiant, Khalafallah, qui étudie, qui ose étudier l'art du récit du Coran, pourtant avec un directeur de thèse reconnu, mais l'institution qui est à Al-Azhar est rebutée par ce travail.
Voilà, alors le contexte de cette soutenance de thèse qui n'a pas eu lieu nous ramène au milieu du XXe siècle.
Et je voulais évoquer ce point, voilà. Indépendamment de la considération de l'année 1979 ou de la décennie 70 du siècle écoulé.
Oui, oui, et c'est très important parce qu'elle montre justement cette volonté de reprise en main. Khalafallah, comme vous l'avez très bien dit, tout en disant « je suis un croyant musulman », mais il est aussi possible d'étudier le texte coranique comme un texte littéraire. Et qu'est-ce que je fais avec des méthodes d'analyse littéraire de ce texte littéraire? Et ça lui est refusé. Et son directeur de thèse, on lui enlève sa chaire. Donc il y a des conséquences académiques fortes. Et 40 ans après, un autre universitaire égyptien, Nasr Hamid Abu Zayd, avec un autre itinéraire, mais dans la même université, l'université égyptienne,
qui mourra en 2010,
voilà, veut faire la même chose. Et lui peut aller jusqu'à enseigner, mais il est considéré comme un apostat du point de vue des hommes de religion de l'Égypte du début des années 90. Mais le code pénal égyptien ne permet pas de le condamner selon des règles du fiqh classique. Et ce qui est possible de faire dans le cadre pénal égyptien, c'est de l'obliger à divorcer de son épouse. Pour cette raison, il quitte l'Égypte et il finit ses jours, comme vous l'avez indiqué, en Hollande, en 2010.
Oui, avec cette idée que dès lors qu'il est apostat, le droit dit islamique ne permet pas à une musulmane d'épouser un non-musulman, et de ce fait, il y a une dissolution du mariage. Et comme il tenait à son épouse et aussi à sa foi, c'est sa conscience. Voilà un exemple d'une atteinte directe à la liberté de conscience. Donc, il n'avait pas trouvé comme solution que de s'exiler.
C'est ça. Et nous avons des actes. Lui a toujours dit, mais je suis musulman. Et c'est très important de montrer qu'il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui a quitté l'islam volontairement, qui se considère publiquement comme libre penseur. Il en va de même
Il a dit, je ne suis pas un nouveau Rushdi.
Oui. Et de fait, Rushdi disait qu'il n'était pas musulman, même si des Hazaris l'ont obligé à faire profession de foi musulmane. Ce qu'il a regretté après.
Après coup, oui.
Ce qu'il a regretté après. Mais nous avons un autre exemple d'une personnalité publique qui se disait musulman et qui voulait penser librement, qui est Falak Foda. C'est exactement le même contexte, celui du début des années 90, et qui est accusé d'apostasie et qui est assassiné pour cette raison, avec une justification du geste des assassins par Mohamed El-Razali lors du procès, figure que j'ai évoquée tout à l'heure. Ce contexte du début des années 90 est tout à fait important et nous en sommes un peu sortis. Ça me paraît important
de le souligner.
Parce que la tension était très forte et il y a eu une libération de la parole ces dernières années, avec une défense de la part de penseurs musulmans libéraux qui disent « mais nous pouvons faire autrement, nous pouvons penser autrement en tant que musulmans ».
Alors il y a l'exemple au milieu des années 90 et avant, j'étais encore jeune, je parle du philosophe Hassan Hanafi, ou qui a abordé ces questions d'un point de vue philosophique. Quelle en est maintenant la portée de sa pensée?
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Hassan Hanafi il y a quelques années. Il y avait, sa maison était une véritable bibliothèque, plurilingue, il maîtrisait un certain nombre de langues, et il avait des étudiants qui travaillaient à demeure. Donc, c'était comme une bibliothèque universitaire. Mais au-delà de ces étudiants-là, c'était quelqu'un qui était en partie marginalisé dans l'institution égyptienne, notamment pour des propos qu'il avait tenus. J'en donne un parce que c'est l'exemple qu'il nous avait donné, à savoir que le Coran, c'est comme un supermarché, chacun vient prendre ce qu'il veut y trouver. Et ce propos l'a tenu publiquement, lui avait valu les foudres d'une partie du monde médiatique et des oulémas de l'époque. Néanmoins, ses travaux publiés restent importants dans différents domaines. Le domaine de l'épistémologie, il a voulu vraiment faire un travail épistémologique. Le domaine de la pensée politico-religieuse, il a défendu une gauche islamique, y compris d'ailleurs en promouvant le khoméinisme après 78-79 vers le monde de langue arabe sunnite, majoritairement sunnite, ce qui lui a valu un certain nombre de déboires. Et puis une approche historique également et philosophico-historique. C'était vraiment quelqu'un qui brassait énormément de choses, un peu comme son aîné Abdulrahman Badawi. Abdulrahman Badawi, qui était un savant considérable, mais un peu seul de ce fait, oui, du fait de leurs compétences.
Hassan Hanafi ne serait pas, mutatis mutandis, et je ne veux pas être injuste à l'égard de Michel Foucault, l'équivalent de Michel Foucault qui a vu quand même, c'est moi qui souligne le quand même, dans le khoméinisme une sorte de spiritualité mystique, une révolution à prendre en considération.
Je crois que ce qui le fascinait l'un comme l'autre, et pour aller dans votre sens, c'est que, et les observateurs de l'époque, c'est une révolution qui réussit sans appui extérieur, ni du bloc de l'Est, ni du bloc de l'Ouest. Et donc, il y a comme un grand souffle qui émane de l'intérieur, qui fascine les gens de l'époque en disant « mais nous voyons l'histoire comme allant dans un sens, et ce qui se passe en Iran ne va pas dans ce sens-là. Et donc nous devons reconsidérer un certain nombre de processus. » Aujourd'hui, nous sommes 40 ans après, le regard n'est plus du tout le même sur cette révolution. Mais en 79, ça interrogeait les contemporains.
Alors, un autre exemple ou un autre cas que je soumets à votre sagacité, parce que j'ai lu dans votre livre, je répète que c'est un livre somme, que les deux frères Hassan al-Banna et Gamal al-Banna, d'aucuns disent qu'ils n'étaient absolument pas d'accord, vous vous dites que leur désaccord n'est que partiel, Gamal al-Banna, aussi étonnant que ça puisse l'être, plaidait pour la liberté de conscience, en tout cas une sorte de modernisation du droit. Et en l'occurrence, en ce qui concerne tout le débat à propos de la femme musulmane, ces questions du voilement ou du revoilement de la femme, lui, il était contre.
Oui, tout en laissant la liberté. C'est-à-dire, lui aussi, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et vis-à-vis de son frère, ce qu'il disait, il avait une grande affection pour lui. Mais il reconnaissait que son frère l'avait interdit, par exemple, de fonder un groupement ouvrier qui risquait de diviser les musulmans. Et il était convaincu que si son frère avait vécu longtemps après son assassinat, s'il n'avait pas été assassiné en d'autres termes, son frère aurait bougé. Donc c'était son idée. Après, lui se qualifiait lui-même comme musulman libéral. Et par exemple, il a pris la défense de Falak Foda, et il s'est manifesté publiquement contre le propos de Mohamed el-Razali justifiant le geste des assassins. Et il a dit qu'Allah, c'est très très fort, c'est-à-dire non, non, non et non.
Non. Oui.
Et il dit on ne peut pas justifier un geste. On ne peut pas justifier ce geste des assassins au nom de l'islam. Donc musulman libéral, il disait moi je suis un croyant musulman, mais je veux laisser cette liberté là. Alors, il avait eu une interrogation sur la non-religion. C'est-à-dire, pour lui, le monde, c'était un ensemble de religions, il fallait laisser une grande liberté là. Mais il y avait une interrogation sur quelle place laisser à la non-religion, ce qui concerne quand même un quart de l'humanité. Et on voyait que là, tout n'était pas résolu. Il était aussi assez critique à l'égard de certains mouvements dans les sociétés séculières. La starisation, par exemple, il était très...
Le védétariat.
C'est ça. Donc, c'était pas du tout quelqu'un de naïf ou de... Il avait un regard critique sur l'ensemble des choses, l'ensemble des sociétés, l'ensemble des systèmes de pensée. Et de ce point de vue, il était très intéressant.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet ô combien crucial, la question de la liberté de conscience, notion, droit, d'un point de vue à la fois historique, avec Dominique Avant. Dominique Avant est historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur du livre Somme, Liberté de conscience, l'histoire d'un droit et d'un concept, je le dis de mémoire. Pour cette dernière partie, cher Dominique Avant, qu'en est-il de ce projet d'une constitution islamique voulue par les doctrinaires d'Al-Azhar, mais qui n'avait pas abouti? Je crois que c'était un projet d'une constitution en 71 articles et qui devait reprendre pour l'essentiel la fameuse déclaration des droits de l'homme en islam ou dans les limites de la charia. Quelle est l'histoire de cette affaire?
Alors, nous sommes dans les années 70 et dans la perspective dont nous avons parlé tout à l'heure, des savants d'Al-Azhar et en particulier le grand imam de l'époque, le cheikh Abdelali Mahmoud, qui fait venir au Caire Abu el-Ala Maududi, essaye de dire, bon, les États existent. Nous ne pouvons pas revenir au temps précolonial de grands empires. Partons du constat de l'existence d'États et voyons comment, à partir d'une constitution à laquelle adhéreraient des États qualifiés d'islamiques petit à petit, on pourrait constituer les États-Unis musulmans. Donc, il demande à un comité ad hoc de savants d'Al-Azhar en 77 de rédiger une constitution qui contient plusieurs dizaines d'articles, en disant, voilà, ça c'est notre socle commun. Donc la forme est moderne, mais le fond vise à mettre en forme des aspects qui relèvent du fiqh. Et quand on interroge à ce moment-là Abdelali Mahmoud sur la différence entre le fiqh et la charia, il dit, pour reprendre un élément que vous avez indiqué tout à l'heure, la charia c'est tout ce qu'il y a dans les manuels de fiqh. Donc là, il ne fait pas le distinguo que font beaucoup d'autres personnes. Cette constitution repose sur quatre piliers. Al-Ahkam al-Sharia, les prescriptions islamiques. Al-Qada, c'est-à-dire l'ensemble des juristes et des juges et finalement des olémas qui disent ce que sont ces prescriptions islamiques et qui les enseignent et qui les transmettent et qui vérifient qu'on ne se trompe pas là-dessus. Al-Imam, troisième pilier, c'est-à-dire celui qui est en charge du pouvoir exécutif, qui à titre personnel peut être assez libre, mais qui peut en aucun cas remettre en question l'Ahkam al-Islamiyya. Et puis, à la base, el-Sha'ab ou el-Amma, c'est-à-dire le peuple, la masse, qui a des droits et des devoirs et qui se sont subordonnés à ces trois autres éléments. Sadat laisse faire, c'est-à-dire il laisse les savants religieux promulguer ce texte qui est approuvé par les frères musulmans de l'époque, puisque le texte paraît dans En-Nour, la revue des frères musulmans de l'époque. Et donc, on a un moment de rapprochement entre El-Azhar et les frères musulmans. Il y a d'ailleurs des frères musulmans qui enseignent à El-Azhar à ce moment-là. Mais ils sont débordés l'année suivante, donc on est début 78, Abdelilim Mahmoud meurt, et l'année suivante, ils sont débordés par ce qui arrive en Iran. Parce que fait Khomeini ? Il fusionne les deux, ce qui est très distingué dans la constitution islamique sunnite, à savoir El-Qada et El-Imam. C'est le Wali El-Fakir, c'est-à-dire c'est l'autorité du juriste théologien qui a le pouvoir exécutif, mais également le pouvoir d'interprétation religieuse. Et ça, ça les dérange énormément. Et puis après, il y a d'autres événements qui sont des événements plus géopolitiques. La paix entre l'Égypte et Israël, c'est 79. Donc, il y a la tentative de prise de la grande mosquée de la Mecque, c'est toujours en 79. Et donc, cette révolution khoméniste qui perturbe ce milieu-là en disant, mais où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment?
L'accession au pouvoir de Saddam Hussein, l'invasion de l'Afghanistan.
C'est ça.
C'est une année charnière et particulière sur le plan géostratégique. Ma curiosité, c'est comment les frères musulmans s'étaient ralliés à ce projet de constitution. Pourtant, il y a un article qui fait de la rébellion contre le détenteur du pouvoir quelque chose de, sinon de proscrit, moins de, qui n'est pas à encourager.
À cette réserve près que si le détenteur du pouvoir est considéré comme s'opposant aux prescriptions islamiques,
là,
il est possible.
Devient...
Voilà. Et c'est là-dessus qu'il joue. C'est-à-dire, par exemple, pour les... Alors, tous les frères musulmans n'ont pas justifié l'assassinat de Sadat, mais une partie d'entre eux ont justifié l'assassinat de Sadat, précisément en le disqualifiant d'un point de vue religieux. Et on retrouve ça, par exemple, dans la première édition des Libertés publiques, dans l'ouvrage de Rachid Ranouchi, la première édition de 93, en note de bas de page, il dit que Sadat était considéré comme tel, ce qu'il supprime en 2011 quand il réédite les libertés publiques dans l'État islamique.
Alors il y a eu peut-être, au-delà de l'anecdote, l'histoire de Habib Bourguiba quand il boit publiquement un jus d'orange en plein jeûne du mois de Ramadan, disons qu'une meilleure compréhension des préceptes religieux, c'est pas tant le jeûne comme un sacrifice, une maîtrise de soi et de jeûner, mais le fait d'œuvrer pour la nation, parce que le jeûne peut ralentir l'activité économique. Certains oulémas et savants religieux s'étaient offusqués de ce geste et l'avaient déclaré comme apostat. Et auquel cas, le fait de le destituer ou de s'insurger contre lui deviendrait licite.
Oui, alors en Tunisie, il n'avait pas obtenu l'appui des savants à qui il avait demandé ça, mais ces savants ne s'étaient pas soulevés contre lui. L'affaire qui lui a fait encore plus, qui a suscité encore plus de débats et qui a fait qu'il a été qualifié d'apostat, c'est quelques années plus tard, c'est Hamadi Redissi qui le dit très bien dans son livre sur le pacte de Najd, c'est quand, lors d'un colloque à Tunis, il dit « Nous devons interpréter différemment le texte coranique, par exemple la transformation du bâton de Moïse en serpent. C'est une image, nous ne devons pas le prendre au pied de la lettre. » Et c'est le cheikh Ibn Baz, qui est recteur de l'université de Médine dont je parlais tout à l'heure, qui, s'appuyant sur d'autres savants, notamment l'Indien Hassan al-Nadwi, et qui dit « En disant cela, si tu ne reviens pas sur tes propos, tu es véritablement apostat. » Mais c'est une parole religieuse extérieure, et Bourguiba maîtrisait le corps religieux à l'intérieur d'une main de fer. C'était pas un démocrate de ce point de vue. Et donc, il n'y a pas eu de conséquences pour lui à l'intérieur de la Tunisie.
Oui, il y avait aussi le débat en dehors du bâton de Moïse sur les djinns, sur les anges, le démon.
Exactement.
Tous ces êtres-là, d'un point de vue, enfin, leur compréhension au sein de, dans le corpus coranique. Encore cette fois-ci dans l'Occident dit musulman, un intellectuel comme Abdallah Laroui ou même Mohamed Charfi et son homonyme Abdelmajid Charfi, quand il s'intéresse au concept de la liberté, ils disent d'abord on ne voit pas le quantum de sanctions pour l'apostat. On se fonde sur un hadith qui n'a été rapporté que par un jeune homme, même un enfant, au moment du décès du prophète, qu'aucune chaîne de transmission n'était, et pourquoi donner tant d'importance à cette affaire du châtiment suprême à l'apostat, alors qu'il n'y en a pas dans la révélation coranique.
Oui, ce que vous rappelez est absolument fondamental. Autant il y a des peines qui figurent en toutes lettres dans le texte coranique, autant celles-ci ne figurent pas, puisqu'elles renvoient à une condamnation éventuelle qui est laissée à la
c'est
décision.
C'est Dieu qui s'en chargera.
Il y a dans l'au-delà.
Voilà, il y a une imprécation contre celui qui renie sa foi, point.
C'est ça. Et nous avons, dans le sens que vous indiquez, une remise en question des oulémas marocains, puisque vous évoquiez Abdallah Laroui, par eux-mêmes, entre 2014 et 2017. En 2014, ils promulguent une fatwa...
C'était 2012 ou
2012 et 2017. En 2012, ils promulguent une fatwa, donc c'est le Haut Conseil des Oulémas marocains, qui justifie, à partir du hadith que vous mentionnez, celui qui change de religion, tuez-le, la justification de la peine de mort pour l'apostat. Et une partie des mêmes, qui, 5 ans plus tard, en 2017, publie un ouvrage qui s'intitule Sabil al-Ulama, dans lequel il y a un chapitre où, à partir d'un autre hadith, ils disent « ce n'est plus la peine ». Et nous n'avons pas à punir de mort l'apostat. Et de toute façon, les conditions font que la communauté musulmane n'est plus menacée par la sortie de un ou d'autre. Et on voit bien, là encore, on n'est plus dans les débats du début des années 90. À la fin des années 2010, il y a plus de jeux, mais parce qu'il y a eu plus de violence aussi. La décennie 2010, la violence au nom de l'islam avec Al-Qaïda, avec Daesh, a provoqué une vraie réflexion, une profonde réflexion chez des intellectuels musulmans en disant mais on peut pas aller jusqu'au bout de ces logiques-là. Au nom de l'islam, il faut qu'on ouvre d'autres portes, qu'on fasse sauter des verrous.
Oui, et l'argument de ces oulémas, et notamment marocains, était... Oui, on a justifié le châtiment suprême contre l'apostat au nom de la désertion et le fait de tourner le dos à la communauté, presque pour des considérations uniquement politiques. Et maintenant, la communauté n'étant plus menacée, ça devient une affaire d'adhésion dans l'intimité de conscience de chacun et ça n'est plus notre affaire. Alors la question, est-ce que cette évolution était sui generis et interne ou il y a eu aussi soit des pressions, soit des contacts, soit une ouverture ou une évolution, presque une illumination si je puis dire?
Alors, je suis pas allé les interroger, mais publiquement, il y a eu une déclaration du ministre des Awqaf, ou des biens Abou, après la fatwa, Ahmed Taoufik, qui a dit que, dans le contexte actuel, c'était plus possible de tenir ce type de discours-là. Donc, on a eu la parole politique qui est venue s'opposer à cette parole religieuse. Mais après, il faut voir le cheminement de ces savants eux-mêmes. Il faudrait les interroger pour... Et en tant qu'historien, je ne peux pas aller au-delà de ce constat extérieur que je fais.
Là, maintenant, pour le temps qui nous reste, il y a des écoles d'une théologie nouvelle où ces chantiers sont pris en charge, notamment les droits fondamentaux de la personne humaine, à commencer surtout par la liberté de conscience. Vous pensez, l'historien regarde presque le passé comme une archéologie du temps présent, et vous pensez que ces débats-là vont donner lieu à davantage de proclamations allant dans le sens de la liberté?
Alors si je saisis quelques indices sur les 10 dernières années, on voit des ouvrages qui sont parus autour de 2014-2015. Avec immédiatement des réactions pour essayer d'étouffer cette parole, qui néanmoins a continué à s'exprimer. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez subi vous-même un certain nombre de ces pressions. Plus récemment, on a, par exemple, dans le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans dans le monde, hein, l'Indonésie, une réflexion de ce groupe qui s'appelle Nahdlatul Ulama, donc ce cercle des oulémas qui rassemble des milliers et des milliers de savants, qui réfléchit sur la manière de qualifier l'autre. Et penser la liberté individuelle, c'est aussi penser au salut, mais aussi penser la manière de qualifier l'autre.
Donc une réflexion sur l'altérité.
Sur l'altérité, la manière de le nommer. Et de voir mais qu'est-ce qu'on fait avec lui dans ce bas monde et qu'est-ce qu'il devient au-delà. Et notamment ne plus utiliser le terme mécréant pour le qualifier. Durant ce mois de Ramadan, il y a en Égypte, j'ai découvert récemment, une réflexion du Cheikh Joma sur le salut des non-musulmans.
Et une sotériologie qui n'est pas exclusivement islamique.
Ce qui a tout un tas de conséquences, là encore, sur la possibilité de faire émerger un droit de type nouveau, mais à partir d'une parole religieuse. Donc voilà, ce sont des indices qui montrent que, et c'est très important de le dire, que les paroles ne sont jamais figées, les situations ne sont jamais figées, et qu'il y a une hétérogénéité, une pluralité, notamment dans la tradition musulmane, comme il y en a dans d'autres traditions religieuses. Ce qui est un message extrêmement important à faire passer.
C'est-à-dire que l'important, c'est de susciter des théologiens musulmans, des penseurs, des philosophes, des intellectuels, un peu comme le mouvement intellectuel, c'est pour boucler la boucle, revenir à l'Église catholique, des Karl Rahner, des Yves Congar, des Paul Tillich, et si on va aussi du côté protestant, des Karl Barth, des Gustav Thies ou autres. C'est important qu'il y ait des intellectuels, quitte à fonder par la suite des courants de pensée.
Je crois que si on veut défendre ça, c'est absolument fondamental. Ce n'est pas simplement avec des transformations économiques et sociales que les choses changeront. Parce que si vous regardez le classement des pays par le produit intérieur brut et le classement des pays par l'indice de démocratie, vous voyez bien que pour certains pays, bien, il n'y a pas de coïncidence. Et donc c'est vraiment par la montée en puissance de ces penseurs-là que les choses se transformeront aussi.
Bien. Merci infiniment. Merci cher Dominique Avon. Merci de nous avoir donné de votre temps, d'être venu nous éclairer d'une manière objective, posée, à propos du débat relatif à la liberté de conscience dans les contextes islamiques contemporains.
Merci pour votre invitation. Merci.
Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons reçu aujourd'hui Dominique Avon. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jason Taous et la réalisation par Jeanne Cherquefosse.